RFI, grand reportage.
Bah, Loulou, de toute manière, il est revenu ici. Maintenant, ça fait entre 15 et 20 ans qu'il est réapparu chez nous, dans nos vallées, aux Alpines.
Faut-il avoir peur du loup ? Réapparu en France au début des années 90, après avoir totalement disparu pendant 60 ans, l'animal crée la polémique. Ennemi numéro un de certains éleveurs de brebis, le loup gris est pourtant protégé par la loi. Comment cohabiter avec le loup dans les Hautes-Alpes ? Les bergers cherchent des solutions. Un grand reportage de Christine Zibert.
Mais le loup, nous vraiment, quand on est ennuyé, ça fait une quinzaine d'années, quoi, 15-20 ans.
D'accord, ok.
Avant, on n'avait pas ces problèmes, on n'avait pas ce problème-là.
Éric Grosasso a été berger toute sa vie. Aujourd'hui, il habite dans la vallée et donne des coups de main à d'autres bergers. Nous sommes dans les alpages, en face de Serre Chevalier. Éric Grosasso est venu accompagné de sa chienne Elia. Il nous montre les montagnes en face.
Le côté gauche, là.
Ouais.
Ça, c'est Méa. Et ce qu'on voit, le vallon, là, à droite de la Balme, c'est Cucumel.
Avec nous, Claire Guérin, accompagnatrice en montagne et passionnée de ce loup longtemps absent de ses contrées.
Il a disparu de France parce que dans les années 30-40, parce qu'il était chassé, voire vraiment persécuté.
Il n'y en avait plus, il n'y en avait pas du tout.
Il y en avait plus en France.
Il y en avait un peu aussi dans le Mercantour, en limite avec l'Italie, quoi. Parce soi-disant, il vient des Abruzzes, mais en venant par le Mercantour.
Et nous sommes aussi avec Julien Josserand, berger et écologiste.
Je suis naturaliste, hein, j'aime la nature, j'aime la biodiversité. Simplement, il ne faut pouvoir pas juste regarder des brebis se faire éventrer devant nous sans réagir. Donc c'est possible de pouvoir réagir comme une forme d'autodéfense. Et ça ne veut pas dire qu'il faut éradiquer pour autant une espèce. Moi, je pense que c'est possible, mais moi, en disant ça, je suis l'ennemi des pro-loups qui sont radicalisés,
ouais,
comme des anti-loups qui sont tous radicalisés, en fait. Et je me retrouve dans un entre-deux où je suis l'ennemi de tout le monde, en fait.
Okay.
Et pourtant, Julien Josserand est loin d'être le seul berger à défendre une position modérée. Éric Crozasso.
Ben, le loup, il était là avant nous. Bon, maintenant, c'est sûr que avec son retour, vu notre façon d'élevage, qui est maintenant dans l'intensif, avant, c'était des petits troupeaux d'une vingtaine, trentaine de bêtes. Alors les gens, tous les soirs, les rentraient. Mais maintenant, de 30 brebis, on est passé à des troupeaux de 1000, 2000 brebis, voire 3000 brebis.
C'est pour économiser de la main-d'œuvre ou enfin...
Bah, oui, il y a économisé de la main-d'œuvre. Les montagnes sont devenues de plus en plus grandes parce qu'on a... Avant, tout ça, c'était travailler en montagne parce que les gens ramassaient du foin, des trucs comme ça. Alors maintenant, comme les gens ne cultivent plus, on a augmenté les troupeaux aussi. Et alors, ce qui fait, c'est que 3000 bêtes en montagne, ben, on ne peut pas les rentrer tous les soirs.
Les habitudes d'élevage ont donc changé au fil du temps et les bergers s'étaient habitués à l'absence des grands prédateurs. Mais aujourd'hui, non seulement le loup est revenu, mais en plus, il est protégé. D'abord au niveau européen par la Convention de Berne, qui a été transcrite dans le droit français en 1989. Pour les bergers, il s'agit donc aujourd'hui de trouver comment cohabiter. Sur l'alpage, pour l'instant, tout est calme. Julien Josserand promène son regard sur son troupeau regroupé à l'ombre d'un arbre.
Là, c'est le moment de pause, elles ruminent. Elles ont chaud, elles sont blindées d'herbe. Le travail maintenant, c'est la rumination pour digérer toute cette herbe.
Un nuage de brebis blanc sous un ciel bleu étincelant, c'est idyllique. Une attaque est peu probable, puisque le loup préfère une météo plus sombre, explique Éric Rosasso.
Le loup peut nous attaquer, hein, surtout quand il y a des journées de brouillard et de pluie. Julien aussi, ça lui est arrivé.
Moi, j'ai vécu un carnage il y a 4 ans ici, en face à la Cucumel. Il y avait en tout cas une meute apparemment, donc il y a eu vraiment beaucoup de victimes. Une vingtaine de victimes, une quinzaine de mortes, d'autres qu'il fallait achever parce qu'elles étaient agonisantes, voilà.
En cas d'attaque du loup, les bergers sont indemnisés, mais pour eux, ça ne remplace pas la perte.
Quand on perd une brebis, on perd plusieurs saisons d'agneaux, plusieurs années où elle va faire des agneaux. Et c'est pas comptabilisé, ça.
Une brebis est estimée, je sais pas, 100, 120, 130 euros, j'ai aucune idée. Moi, c'est pas la valeur vraiment de ma bête. C'est pas une valeur financière qui s'en va. Moi, c'est une valeur que cette bête-là... Eh bien, j'ai mis des années à faire de la sélection pour avoir un bon troupeau, avoir des bonnes mères. Et ça, ça n'a pas de prix. Alors, moi, on me paye une brebis, mais... Achète-moi gigot, ça rien au même. Hein.
Il y a des gens qui pensent que la brebis, elle se fait manger par le loup à la montagne. Et ils vont dire que de toute façon, elle va aller à l'abattoir pour faire de la viande. Ce qui est complètement faux. Ce qu'on garde à la montagne, c'est des brebis. C'est les mères des agneaux qui, eux, iront à l'abattoir.
L'année dernière, Julien Josserand a perdu une seule brebis dans une attaque de loup.
Le loup, il est sorti d'un taillis, un peu d'un buisson. Très rapidement, il a isolé un agneau qui était un peu en extrémité du troupeau et l'a fait courir en descendant la montagne dans un petit vallon, en le dirigeant à gauche et à droite, en mordant le jarret à gauche, jarret à droite, pour l'emmener dans le bois. Voilà, c'était même la seule attaque de la saison.
Mais le carnage, comme il dit, d'il y a 4 ans, reste présent dans sa mémoire. Julien Josserand se donne donc les moyens de défendre son troupeau.
Moi, personnellement, j'ai passé le permis de chasser pour avoir une carabine, pour pouvoir faire effectuer des tirs de défense en cas de problème, comme il y a 4 ans, où vraiment il y avait une pression phénoménale.
Et là, vous n'avez pas le droit de tirer aussi ?
Dans ce cas-là, si.
Pourquoi vous ne l'avez pas fait alors ?
Déjà parce que c'était brouillard, pluie, et que c'était impossible. J'en ai vu aucun pendant l'attaque. Donc déjà, techniquement aussi, c'est très difficile de pouvoir tirer, évidemment.
Dans certaines zones, comme les cœurs des parcs nationaux, les tirs sont interdits d'office et en dehors de ces zones, ils ne sont possibles qu'à certaines conditions.
C'est très encadré par la loi en fait. Un D'accord. tir de défense doit être effectué à tant de mètres du troupeau, dans un contexte d'estive où on garde les brebis en montagne.
Même si tu as par exemple ton permis de chasse, tu ne peux pas le tirer comme ça.
Remplir les papiers de la DDPP
voilà,
aussi.
Remplir les papiers.
Je les ai à la cabane, ces papiers, vous pourriez les regarder. C'est...
Ouais.
Ah c'est oui, plein, oui. De petites choses à remplir.
En route donc vers la cabane de berger, située à une vingtaine de minutes à pied.
Voilà la cabane du Piré, ouais.
Ok.
C'était la cabane d'Éric quand il était berger dans les années 80.
Ah oui, d'accord, aussi. Ok, oui, oui. Alors, nostalgique avec la cabane ?
Oh, non, pas du tout. J'ai tourné la page si on veut, mais je suis tout le temps là, quoi. Hein.
À l'intérieur... Une mezzanine pour dormir, une planche avec quelques livres, de la littérature, de la philosophie, une petite radio.
Voilà.
Ici, c'est cuisine.
C'est de l'énergie solaire en 12 volts pour mettre la radio,
okay.
Pour écouter RFI.
Et sur la grande table, les cahiers où Julien Josserand note les événements de chaque journée.
Ça, c'est l'année dernière.
Ah oui.
Le 20 juillet. Idem, sauf attaque de loup devant mes yeux ébloui.
Dans un tiroir, Julien Josserand garde le formulaire à remplir pour déclarer une attaque de loup à la préfecture. Pour se défendre du loup, les bergers qui détiennent un permis de chasse peuvent aussi effectuer des tirs d'effarouchement pour effrayer le loup en faisant du bruit. Et ils peuvent faire appel au lieutenant de louveterie. Ce sont des bénévoles placés sous l'autorité du préfet qui ont un large champ d'action. Cela va des conseils donnés aux éleveurs jusqu'à l'abattage du prédateur.
Les lieutenants de louveterie, ils se posent à un endroit... à une date et à une heure de début et une heure de fin de leur traque en quelque sorte quoi. C'est plutôt
d'accord.
D'ailleurs c'est pas une traque, c'est des affûts plutôt qui font.
Nous sommes de retour auprès du troupeau et la discussion tourne autour des dispositifs de protection que l'État finance dans les zones de prédation. En tout, il dépense 25 millions d'euros pour l'indemnisation et la protection, détaille Claire Guérin.
Sur ces 25 millions d'euros, la grande majorité, pratiquement 90%, est allouée à la protection, c'est-à-dire à donner des aides aux éleveurs pour qu'ils puissent soit payer un aide-berger, soit payer un ou des chiens de protection. Sur certains élevages, ils peuvent avoir les deux aides. Et puis aussi pour se payer des parcs, des clôtures, du matériel.
Mais les avis sur les enclos sont mitigés. Éric Crozasso.
Les enclos... en fil électrique, comme ça, c'est aucune protection pour le loup, quoi. Il saute par-dessus, ou alors, s'il saute pas, il fait peur aux bêtes. Les bêtes rentrent dans ses filets, et elles sortent, elles cassent tout, elles paniquent. Il fait en sorte qu'elles se paniquent, pour après qu'elles s'échappent de leur enclos, et les tuer, quoi.
Julien Josserand estime, lui, que certains types de parcs électrifiés peuvent être une solution.
Bah, ça peut déjà en refroidir certains s'ils prennent une châtaigne, je pense. Par rapport au fait qu'elle soit vraiment en libre, c'est-à-dire qu'elle dorme dans la montagne, n'importe où, ce qui s'est fait pendant tout le temps, parce qu'il n'y avait pas de grands prédateurs, c'est quand même une protection.
Il faut que ces parcs soient faits selon certains principes, ajoute Claire Guérin.
Il y a des chercheurs qui ont estimé qu'il fallait que les filets soient à plus de 1,2 mètre de hauteur. Que le loup n'avait pas tendance à sauter, même s'il en avait les capacités physiques, mais plutôt à aller chercher au sol. Donc il faudrait peut-être que les filets soient mis le plus proche possible du sol, qu'ils soient installés de manière la plus circulaire possible, pour éviter, s'il y a un mouvement de panique, que les brebis aillent toutes s'étouffer dans un angle, dans un coin du filet. Parce que ça arrive en fait. Donc ça fait des pertes massives.
L'État finance également des chiens de protection, les fameux patous, et c'est un autre sujet de débat.
J'ai eu des patous qui travaillent moyennement, d'autres mieux. Les patous, c'est oui, ils vivent en permanence avec les brebis et ils sont censés les défendre, ils le font en général. Déjà, ils aboient beaucoup et en cas d'attaque, ils peuvent attaquer les loups. Enfin, après, il y a tout. Je crois qu'il y a des patous qui se sont aussi fait bouffer par les loups, c'est arrivé.
Quant à Eric Crosasso, il caresse Elias, sa petite chienne noire tachée de blanc, le regard songeur. Le patou, il ne veut pas en entendre parler.
Le patou, quand même, c'est un drôle de chien. Lui, il vit avec le troupeau. Il n'a pas de maître. Le berger a très peu de contact avec lui, juste pour la gamelle, c'est tout. Moi, je vais vous dire, j'ai jamais vu un patou obéir. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas mes copains. Vous voyez partir vers des gens, vous avez beau l'appeler, mais il y va quand même.
Et Claire Guérin conclut, il faudrait que les autorités consultent beaucoup plus les bergers pour connaître la réalité du terrain.
Tu pourrais déjà avoir juste un vrai dialogue. Vous avez vu des agents de l'État qui sont venus sur le terrain, qui ont vraiment parlé avec les bergers, qui ont vraiment dit, et vous, que sont vos difficultés? Comment vous vivez l'estive? Comment vous vivez les attaques de loups? On ne sait pas. En fait, il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. C'est pas juste on vous donne des sous pour ça, donc maintenant ça va aller. Il y a énormément de problèmes avec les chiens de protection. Soit ils sont hyper menaçants, et donc du coup, moi, ils me font peur. Soit, à l'inverse, j'ai des chiens de protection qui m'ont suivi, qui demandaient des câlins, etc. Même si on fait l'effort de ne pas les toucher, ils ne sont pas du tout dans la protection du troupeau. Hein.
Eric,
bon appétit et bonne journée.
Ouais.
Bonne journée. Hein.
Il est temps de quitter les bergers et de reprendre le chemin de la randonnée.
Alors, on était au Pirée. Mmh. On va monter à un petit hameau qui s'appelle le Puy de la Salle.
Mmh. Claire Guérin organise régulièrement des sorties sur le thème du loup.
Pratiquement jusqu'à l'intersection du chemin du roi, puis après on traversera jusqu'à la bergerie qui est en face.
Nous montons donc à travers les prairies de montagne et continuons à parler du loup.
En France, on a décidé de gérer le loup plutôt comme un problème. Dans les Abruzzes, les bergers ne sont pas plus contents que les nôtres, mais ils gèrent ça aussi comme une manne touristique.
En 2018, près de 3700 attaques de loups ont eu lieu en France. Plus de 12500 animaux ont été tués, principalement des ovins. Chiffre dévoilé lors d'une réunion du groupe national loup et activités d'élevage, une instance gouvernementale. Cela représente environ 1% du cheptel français, selon le collectif des associations pro-loup Cap-Loup. Pour réduire ces attaques, de nombreux bergers réclament l'assouplissement des règles qui encadrent les tirs. Mais pour Claire Guérin, il faudrait d'abord étudier scientifiquement la question.
En 2017, il y a quand même une expertise qui a été commanditée par le ministère de l'Environnement qui dit que, a priori, les tirs de loups ne font pas baisser le nombre d'attaques. Et après, eh ben, potentiellement, tu peux avoir des effets négatifs. Alors, je dis bien juste potentiellement. Le premier effet négatif, c'est si jamais tu tues un des deux membres du couple reproducteur, ce que ça va avoir pour effet, c'est de déstructurer ta meute. Et donc, du coup, tu vas avoir plein de jeunes complètement inexpérimentés qui, ben, du coup, vont s'attaquer de manière préférentielle aux brebis. Et puis, eh ben, on ne sait pas à long terme aussi ce que ça peut donner sur le taux de reproduction. C'est-à-dire qu'une population sauvage qui est soumise à une forte pression cynégétique, de temps en temps, elle va modifier son taux de reproduction. Donc à l'heure actuelle, dans une meute, il n'y a que le couple reproducteur qui se reproduit. Les autres femelles sont inhibées, en fait. Donc elles n'ont même pas d'ovulation, d'accord. Et avec une forte pression cynégétique, il a été observé soit plusieurs reproductions par an, soit les autres femelles qui ont la capacité de se reproduire. Donc finalement, plus de reproduction possible.
Nous faisons une halte.
Alors du coup, petit tour d'horizon. Derrière nous, c'est le col du Granon. Hein. Là, devant toi, tu as les crêtes de Pérol.
Nous longeons un ruisseau.
Derrière, au tout dernier plan, la grande montagne.
Et la conversation repart sur le loup. Il mériterait d'être mieux connu, insiste Claire Guérin. Il a d'autres facettes que celles du monstre dévorant les petits-enfants si présentes dans les contes occidentaux.
Nous, on a cette habitude, maintenant, en France, d'avoir une image du loup très diabolisée. Il y a plusieurs raisons à ça. Hein. D'abord, on est un pays quand même de religion chrétienne. Le christianisme est né dans une zone de pastoralisme où globalement la plupart des gens étaient éleveurs. Donc quand il faut parler au Moyen-Âge à des personnes qui savent ni lire ni écrire et leur employer des images, eh ben, forcément, hein, la brebis et l'agneau, c'est le bien et le loup, c'est le mal.
Quand elle emmène ses groupes de randonneurs, Claire Guérin leur lit aussi des contes d'autres cultures où le loup a une image toute différente.
Il y a énormément d'endroits où le loup est complètement déifié. Pour les Inuits, pour les Indiens d'Amérique, c'est un animal qui leur a appris à chasser. En Égypte antique, le dieu à tête de loup était le dieu qui menait la barque du soleil dans son trajet dans les ténèbres pendant la nuit. C'est pas rien, c'est grâce à lui que le soleil revient tous les jours. Le loup a été beaucoup déifié et il fait vraiment partie de notre destin d'humain. Sans le loup, en fait, l'homme chasseur-cueilleur ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Parce qu'on a apprivoisé le loup et qu'on a créé le chien, qui est juste une sous-espèce.
Ni dieu, ni diable, les loups présents en France, 530 individus en 2019, selon l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont des bêtes ni très grandes, ni très massives.
C'est pas une énorme bête, quoi. Un mâle, il va peser aux alentours de 35 kilos, une femelle va peser plutôt 25 kilos. Et puis c'est un animal qui est quand même très 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 furtif. Moi, je suis en montagne toute l'année et ce satané loup, je l'ai encore jamais vu alors que je rêve de le voir.
Le loup, un animal difficile à observer, or il serait encore une fois urgent de l'étudier.
En fait, on a assez peu financé la recherche sur le loup et que finalement on en parle beaucoup, mais on connaît très peu cet animal. Il y a aussi un aspect qui n'est pas du tout pris en charge par le gouvernement à l'heure actuelle, c'est le fait d'anticiper. Je pense aux Causses, tous ces plateaux où il y a énormément de brebis dans les Cévennes, enfin même dans le bassin aquitain, où le loup est en train d'arriver, où pour l'instant il n'y a que des disperseurs, et où en fait il faudrait vraiment avoir une véritable politique d'anticipation. Parce que le temps que le berger ait changé son système pastoral, qu'il ait accepté de redescendre de la montagne plus tôt, parce que l'automne c'est l'époque où les louveteaux sont intégrés à la meute et où ils apprennent à chasser, donc eux ils font du carnage, ils savent pas faire, hein. C'est comme un bébé avec sa purée de petits pois, c'est pas au point.
Claire Guérin insiste, la recherche scientifique permettrait à la fois de mener une véritable politique d'anticipation, mais aussi de percer certains mystères. Par exemple, pourquoi les loups laissent-ils certains troupeaux en paix pour s'acharner sur d'autres ?
Il y a aussi un problème de foyer d'attaque. En règle générale, on a estimé que pour un troupeau qui était bien protégé, il y avait à peu près une attaque par an avec le prélèvement d'une ou deux brebis. L'année dernière, en 2018, 4% des éleveurs ayant subi une attaque ont subi plus de 10 attaques. Moi, au bout de 10 attaques, il y a un moment, il y a de quoi dézinguer le premier canidé qui passe à portée. Hein. Ça rend fou, en fait. Mais ça, on ne sait pas encore pourquoi. Il y a des foyers d'attaque comme ça et puis des zones avec des attaques raisonnables. Moi, je connais plein de bergers qui disent, moi, si le loup, il me prélève une ou deux brebis par an, enfin, on est dans le domaine raisonnable. Voilà.
Et pour finir, le retour du loup a aussi des bons côtés, estime Claire Guérin.
Par exemple, sur la régulation des grands ongulés sauvages, notamment les sangliers, mais les cerfs, les chevreuils, qui font quand même vraiment beaucoup de dégâts sur les cultures, beaucoup de dégâts sur les forêts, et qui là, quand il y a le loup, ils sont obligés d'être un peu plus méfiants. Déjà, ils sont moins nombreux, puis ils sont plus méfiants. Donc, ils ne vont pas surpâturer une zone, ils vont aller se disperser un petit peu plus. Voilà.
Et dans d'autres régions, notamment en Italie, rappelle-t-elle, le loup est même considéré comme un attrait pour les touristes.
Comment cohabiter avec le loup? Dans les Hautes-Alpes, les bergers cherchent des solutions. Un grand reportage de Christine Zibert, réalisation Ludivine Amado, un magazine à retrouver sur le site de RFI.